Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous avons aujourd'hui la joie d'avoir dans ce studio de la rue d'Assali, dont il devient d'ailleurs familier au fur et à mesure que son œuvre s'agrandit. Nous avons aujourd'hui, disais-je, dans ce studio, Yves Charnay. Yves Charnay, bonjour. Yves Charnay, qui vient nous présenter son dernier livre, paru aux éditions Tarabuste, le libraire de Gambetta. Alors Yves Charnay, faut-il te présenter, puisque tu es un des familiers de cette émission, et puis pour les auditeurs toulousains, c'est un nom évidemment que la ville a retenu depuis ton arrivée à Toulouse en 1996.
Oui, 96, oui.
Yves Charnay, il est professeur normalien, professeur à l'École nationale d'aviation civile.
Super-héros.
Super-héros.
Pour les intimes.
Prestigieux super-héros qui forment les pilotes.
C'est Pesquet School.
Et il est connu comme écrivain. Écrivain particulier, d'ailleurs, nous y reviendrons sur ce que l'on appelle l'autofiction, par un livre qui a été un grand succès de librairie, Prose du Fils, qui avait été publié en 1993 à la Table Ronde, voilà, avec une postface de Jacques Borel. Jacques Borel, à l'époque,
très important,
quand même
très important.
Un personnage littéraire qui était très important.
Et un très grand autobiographe, et comme moi, aux limites du poème,
voilà.
En en reparlant,
voilà.
Travaillant poétiquement l'écriture, voilà, de l'autobiographie.
Voilà. Alors, il va en découler toute une œuvre, Rien, la vie, ça c'est toujours à la Table Ronde, Cœur furieux, toujours à la Table Ronde, Mon amour, la Table Ronde aussi.
Tout ça c'est la période Denis Tillignac de la Table,
voilà,
Ronde.
Voilà, alors Denis Tillignac, on va en parler tout à l'heure, quels sont les personnages qui ont compté et qui ont marqué la vie d'Yves Charnay, et en marquant la vie d'Yves Charnay, fatalement, on marque l'œuvre, puisque la vie et l'œuvre sont absolument inséparables. Et puis, il y a une autre édition, une réédition, donc, de Prose du Fils, avec une préface du comédien bien connu, qu'il avait connu, d'ailleurs, si j'ai bien en mémoire, à Normale Sup, hein, qui est Denis Poladiles, qui va reparaître toujours à la Table Ronde dans la collection de poches, c'est-à-dire La Petite Vermillon. Et puis, Petite Chambre, toujours à la Table Ronde. Alors, Lettre à Bautista, on en a parlé ici. C'est un livre, malheureusement, qui a été... Alors, par exemple, il n'est pas classé dans les romans, ni dans les... On va le classer dans les documentaires de l'art romantique.
C'est-à-dire nulle part, en enfer.
Voilà. Mais alors, c'est un livre qui est tout à fait Lettre à Bautista. C'est vraiment un livre qu'il faut... Il y a deux livres sur l'art romantique, là, maintenant. Il y a Le Tiers, et puis il y a le dernier Torero, qui vient de paraître, de Camille... alors, je ne sais plus de nom. Dont il faut que je t'envoie, d'ailleurs...
D'accord.
La note de lecture que j'ai faite.
Tu me l'apprends, là, je n'ai pas suivi.
Alors, La tristesse durera toujours. Miroir de Julien, avant, Dable Vauvert. La tristesse durera toujours. Le divorce. Quatre boules de jazz, Nougasson, qui est paru à Alter Ego, hein, sur Nougaro. Et Dans son regard aux lèvres rouges... C'était alors une édition avec une postface de Jean de Labroie, et c'est paru au Bateau
Ivre
en 2017. Et puis, tu viens à Tarabuste, aux éditions de Tarabuste, hein, excellentes éditions, avec Chute en 2020, et tu récidives à ces éditions Tarabuste avec Le Libraire de Gambetta. Voilà.
Récidiver chez Tarabuste, c'est un bonheur, je rappelle.
Oui,
récidivons, récidivons.
Oui.
Maison
oui.
Magnifique, enfin,
oui.
On en reparlera peut-être.
Oui, oui, oui.
Avec des présences tutélaires très importantes, oui. Une maison magnifique, oui. Puis les êtres oui. Qui font cette maison, oui. Sont des êtres merveilleux.
Alors, de quoi s'agit-il dans les libraires de Gambetta? Bien, on va retrouver dans Le Libraire de Gambetta, à mon avis, un petit peu un condensé de cet art littéraire qui est très particulier, très singulier, et donc l'originalité va définir véritablement le côté unique et inclassable, à mon sens, dit le Charnay, dans le libraire de Gambetta. On va parler d'abord d'une amitié, ce qui est une belle chose quand même de parler de l'amitié par les temps qui courent, où les rapports humains sont surtout des rapports, comment dirais-je, utilitaires. Donc, de ce désengagement dans l'utilitarisme qu'est vraiment l'amitié véritable, de l'estime d'un homme pour un autre homme, et cette amitié est celle d'Yves Charnay avec Christian Thorel, Christian Thorel qui est aussi une des figures de Toulouse, puisque Christian Thorel est le libraire de Ombre Blanche, donc la grande librairie, une des plus grandes librairies d'Occitanie, et une grande librairie de France, voilà. Et cette amitié va naître, et avec cette amitié, Yves Charnay va construire, au fur et à mesure de ses récits, récits qui se succèdent, comme ce qu'avait dit d'ailleurs Mayols, Georges Mayols, quand il disait, et ainsi de suite, l'un en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Donc ces petits textes, puisque le plus gros va faire 3 pages, je crois, à peu près.
C'est ma limite.
Bon, ces petits textes vont s'agréger les uns sur les autres et vont donner vraiment une impression. D'abord, on est bouleversé par le style, les phrases courtes, les phrases percutantes, les maximes de temps en temps qui apparaissent comme des coups de poignard que l'on prend dans le visage du lecteur, et ensuite toutes les réminiscences qui nous affluent comme ça, une réminiscence de paroles, de chansons populaires, mais aussi de Léo Ferré, des réminiscences aussi de titres de films, de vers de poètes, par exemple Un peu de soleil dans l'eau froide, voilà. Tout ça constitue une espèce de terreau d'une langue à part, qui est vraiment à part, qui est une très très belle langue, et qui est une langue en définitive strictement poétique. Voilà. Alors, le libraire de Gambetta, on va découvrir cette amitié entre deux hommes. L'un, c'est un libraire de renom. On va peut-être aussi, tu vas nous rappeler son aventure à lui. Moi, il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Lamont, qui est un docteur en botanique, un grand scientifique aussi, et qui a eu le même parcours que Christian Thorel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est rendu dans la nuit à son laboratoire de biologie qui était aux laboratoires dans les établissements Fabre à Castres. Il s'est endormi au volant et il a percuté un arbre. Voilà. Et toute sa vie a été complètement façonnée par, bien entendu, par cet accident. Voilà. Mais à l'inverse de Christian Thorel, cet accident l'a quand même complètement cassé. Et alors Christian Thorel, lui, cet accident en définitive va lui permettre d'avoir un autre parcours. Il était ingénieur à l'INSA. Voilà. Il a cet accident et
ce sont les sorties de route.
C'est
les sorties de route de la vie, aux deux sens.
Voilà.
C'est les années...
c'est 72.
Oui, voilà, donc c'est les années 70. C'est pas très loin, ouais, d'ailleurs, je pourrais retrouver les dates, mais les choses de la vie. Donc c'est les années où on se tue, où on s'accidente encore en voiture, dans la France pompidolienne, Giscard, dans cette France de la bagnole, comme on dirait aujourd'hui. Cette France qui aime tant Sardou et qui le regrette, qui dit on ne peut plus aller vite, on ne peut plus rouler. C'est le dernier témoin de cette France-là, mais ça donne les choses de la vie, c'est-à-dire les accidents. Oui. Ce sont les sorties de route. Alors c'est drôle, il s'agit de deux très grands amis, mais c'est les sorties de route qui changent la vie de la jeunesse, ce qui arrive plus tôt, en 1965, à Serge Lama, quand on tournait pour Galade Marcel Amont, une tragédie encore plus grande, puisqu'il y a des morts et qu'il est vraiment fracassé totalement, qui conditionnera sa vie jusqu'à l'arrêt récent. Mais c'est frappant pour moi d'avoir ces deux amis et d'être entre ces deux, l'importance de ces deux accidents dans ses vies. Donc pour le jeune Christian Thorel, étudiant un peu par défaut sans doute à l'INSA, se cherchant autrement, venant d'une famille où il n'y a pas de patrimoine littéraire, pas d'indication culturelle majeure, il se retrouve à l'INSA. Et presque les désarrois de l'élève Torel, comme je dis. Enfin, cette sorcière haute était évidemment un accident terrible, mais c'est aussi une possibilité de faire autre chose, de quitter. Voilà. Et une fois surmonté, enfin, toute la traumatologie de l'accident, à un moment, il ne se rendra plus au cours. Et une autre vie va commencer, d'abord d'errance, donc il y a un côté Wilhelm Meister, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il va faire du cinéma, la Révolution, c'est les années 70. Hein. D'errance en errance, il va peu à peu, avec une passion immense du cinéma, immense cinéphile, immense passionné de toutes les musiques et du free jazz et des musiques les plus inventives du moment, il va peu à peu aller, sans que ce soit délibéré, je pense, du côté du livre, donc je le raconte, je renvoie le lecteur à ça, et finalement, être rattrapé par le livre lorsque son ami, là dont j'oublie le nom à l'instant, pardon, qui avait créé la toute petite esquisse de ce que sera Ombre Blanche, l'appelle alors qu'il est dans une autre librairie à Rouen, je crois, pour lui proposer quelque chose, et là c'est le destin, finalement, le voilà. Voilà l'enfant de Castres qui revient dans sa région et qui va commencer à Toulouse dans deux petites pièces, les cartons, la vie libraire, pour créer ce vaisseau de papier qui, quand moi j'arrive en 96, évidemment, j'arrive à Toulouse, et mon arrivée est précédée de l'existence d'Ombre Blanche, de l'importance d'Ombre Blanche dans les premiers lieux où je me rends. Donc quand j'arrive, comme je dis, les jeux sont faits en 96, c'est la grande librairie, c'est un grand libraire, et ce sera très vite pour moi le centre de la ville. Et puis, comme les raisons professionnelles font qu'on va se voir très vite pour voir si moi qui arrive à Super Haut, on peut faire quelque chose avec le grand libraire, je vais humblement voir si c'est possible. Et vraiment, on peut parler de... Oui, maintenant la messe est dite, on peut dire de coup de foudre amical, c'est-à-dire que le premier déjeuner, le premier des déjeuners interminables que nous avons depuis, parce qu'on avait sans doute déjà déjeuné ensemble dans je ne sais pas quelle vie.
Alors, il y a une définition de vous deux que tu donnes. Lui, tu dis un libraire de Roland.
Bon, qu'on puisse dire.
Et toi, un écrivain pour écrivain.
Oui, c'est vrai. Les deux choses sont restées vraies. C'est un immense libraire français. Et comme c'est une formule, j'aimais bien, des fois Francis Marmont, dans ses merveilleuses chroniques, il avait des formules que j'adorais. Il disait ça, c'est musicien pour musicien. Et comme c'est très inclassable, comme tu l'as dit, je crois que c'est resté, enfin, mon lectorat est plutôt celui-là, enfin, y compris les lecteurs, c'est pas ces lettres écrivains, mais c'est des gens qui sont quand même très près de la lettre qui s'aventurent là-dedans. Et puis c'est entouré, je veux dire, je ne saurais jamais ce qu'est le grand public ou un public large, mais je le sais parfaitement sans ces livres, je ne jure pas du tout à changer de catégorie, mais c'est entouré d'écrivains parce que c'est comme des voix intérieures, tu en as parlé, c'est hanté par les chansons, mais les écrivains aussi sont des voix, les mots, comme dirait Sartre, ça chante dans ma tête depuis que je suis petit, avec les mots de papier chantent, et alors évidemment, les mots de papier des chanteurs, alors, m'enchantent et font encore plus d'effet de hantise. Donc, on peut difficilement lire trois lignes de moi sans qu'il y ait déjà un bout de littérature et un bout de chanson dedans. Pour ça aussi, c'est aussi programme, je suis baigné dedans, parce que c'est comme ça.
Alors, tu dis que le mot livre, et ça veut dire d'abord libre.
Oui, oui, ah. Il y a même des... Bien sûr. Enfin, c'est, voilà. D'abord, c'est un jeu que rappelle souvent Pierre Bergugno, mais je sais pas quoi, il y a à côté Chateaubriand, tu parlais de Léo Ferré, enfin... C'est mal porté, ça se fait de moins en moins, mais ce sont de drôles de types. Enfin, c'est le titre de l'émission. Ce sont des anarchistes. Ouais. Ils viennent d'ailleurs. Enfin, c'est pas fait pour se ranger, un écrivain. Voilà. Donc, même on peut même pas me ranger dans une catégorie. J'ai fini par m'y faire. Cela dit, je le rappelle souvent au micro, par ignorance, on me range pas. C'est par ignorance parce que il y a quand même un réel. Je sais pas ce que font les gens, ce qu'ils lisent. Mais pourquoi ont-ils oublié Nerval, Michel Léry, Georges Perrault? Enfin, c'est pas moi. Je n'ai pas inventé le genre. Jean-Claude Pirotte, le cher Jacques Borel, hein, poésie, autobiographie. Enfin, à vos fiches. Non, mais je suis là. C'est bien que je suis là. Personne veut l'entendre. Mais c'est pas. Voilà.
Alors, vous, dans le livre, tu parles de toi, mais tu dis vous.
Ah oui, parce que Christian, voilà. Je me rends compte d'ailleurs, on peut changer, c'est la première fois qu'on se tutoie à cette émission, mais je suis tellement invité depuis si longtemps chez vous, cher Christian, que je ne peux pas, voilà, c'est sorti tout seul. Et encore merci pour cette introduction et pour... Si j'avais 30 lecteurs comme vous, voilà. Donc alors avec Christian, c'est intangible, on se vouvoie.
Oui.
du début à la fin. Oui. Il n'y a même pas question. Mais c'était. Moi, d'abord, j'adore le vous, donc on a peu d'occasion
oui,
de
voilà, pratiquer. Parce que tout le livre, c'est ça.
Oui, c'est pas une pause, mais voilà. Moi, j'adore le vous, donc on n'a pas.
Vous le considérez, par exemple, tu dis.
Ah, ben, ce sont vous voix.
Ça, c'est important. Considérer.
Oui, bien sûr.
Hein, comme un sorcier des signes.
Oui, moi j'avais, j'ai eu la même relation, enfin, une relation, vous, avec Michel Deguy, jusqu'à sa mort, hélas, mais non, les derniers souffles étaient encore vous voyant, et lui-même, les derniers mails arrachés à la maladie, qui étaient si merveilleux, parce qu'elliptique, et douloureusement elliptique, mais arrachés à l'extrême fatigue des maladies, étaient vous. Oui. Il n'est pas question, une fois on avait ri parce que.
Mais là, tout le livre, c'est vous.
Oui, oui, c'est vous. Pas, et donc, pour, enfin, les grands maîtres, c'est les grands maîtres, c'est vous.
Quand tu parles de les toi, êtres que tu dis vous.
Ah oui, après, il y a des jeux, voilà. Etc. Voilà. Mais je veux dire, c'est la loi de cette amitié, c'est la loi de cette amitié qui est une amitié respectueuse. Il ne faut jamais oublier qui sont les êtres. Je disais toujours, j'ai dit ça dans un texte, j'oubliais jamais, j'en ai eu la chance d'être vraiment ami. Et sur une relation assez père-fils. Mais je n'oubliais jamais. Que Michel Deguy était Michel Deguy quand j'étais avec lui. Ça n'empêche pas qu'on avait pouvait déconner, rire. Mais je n'oubliais pas. C'est pareil. On galéjade pas avec Christian Torel. Voilà.
Oui. Pourtant, tu dis, il vous faut rire aussi.
Oui, on rit beaucoup.
Et beaucoup souvent.
On rit beaucoup. Il y a des blagues dans le livre, y compris nous deux, voilà. Dans les blagues fondatrices.
Alors, en parlant de toi.
Mais c'est un espace de la parole, enfin, Duras, vous voyez, Yann Andréa, enfin, dans les amours, je vous voyais, les amis, que je vous vois. Enfin, moi, ce soir, j'aime beaucoup le vous. Hein. Enfin, c'est la grande admiration que j'ai pour la romancière Sarah Gilles, je la vous vois.
C'est
un ami qui faisait bien, tu la vous vois, bien sûr. Et c'est pas un truc de classe, mais je suis dans un HLM où personne ne vous voyait, mais c'est une position dans la parole qu'on
a
oubliée.
C'est ça,
une position d'immense respect qui permet tout. Le vous permet absolument tout. Mais ça installe, il y a une éthique de la parole dans le vous. Je ne pensais plus comme vous le dites, c'est vrai.
D'ailleurs,
c'est mon ami, mais je le vous vois.
Il y a aussi ce rituel du vouvoiement. Moi, par exemple, à l'Académie des Jeux Floraux, lors des séances privées, des académiciens, il faut le vouvoiement est de rigueur, et le monsieur, etc.
Le seul enseignant est tout super-héros, vous voyez les élèves, mais tout le monde, tout le monde, j'ai jamais vu un seul problème, parce que spontanément, tous les élèves me vous voient aussi. Tout le monde tutoie la terre entière. Et vous savez bien que dans les entreprises, on s'assassine en se tutoyant.
Oui, tout à fait. On
vire les gens.
Les Américains, je pense.
Moi, je veux pas vous voyez, pas tutoyer des chefs qui vont me virer un jour. Non, il n'y avait pas question.
Voilà. Alors, tu dis également, vous êtes vous-même, donc tu parles de toi, la matière de votre livre.
Oui.
Voilà. Alors, on va parler un peu de ça, la matière de votre livre.
Ça, c'est l'origine montagne du livre. Il y a plusieurs fois question de montagne dans ce livre.
Oui. Et, alors, il y a, en exergue d'ailleurs du livre, il y a, peut-être on peut le lire, il y a cet extrait des Essais de Montaigne.
Allons-y. Ah oui, tellement beau. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où autour d'une main, je commande à mon ménage. Je suis sur l'entrée et vois sous mon jardin, ma basse-cour, ma cour. Pardon, je suis sur l'entrée et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant. Mes songes, que voici. Tout est dit, comme aurait dit Nougaro. Hein, Michel de Montaigne, essai. Et au-dessus, il y avait un texte d'Étienne de la Boétie sur la servitude volontaire. Puisque Montaigne est l'inventeur des deux choses qui font ce livre pour moi. Les inventeurs de l'amitié et les inventeurs de l'essai. Les inventeurs de l'autoportrait, du moi-même, la matière de mon livre.
Oui, donc évidemment, Montaigne, la Boétie.
Oui, il met cher au double sens du mot. Et surtout, il fait entendre cet autre sens de la librairie, qui est la chambre particulière qu'on a chez soi, qui est la librairie. Donc j'ai beaucoup, dans ce livre, j'ai fait beaucoup jouer le plus possible tous les sens du mot librairie, puisque y compris nous habitons la bibliothèque, la pièce avec les livres et la librairie, mais en plus dans le système du commerce actuel, on vit chez son libraire, comme je dis rien, parce qu'à force d'avoir acheté des livres à Ombre Blanche, on vit chez le libraire, parce que on a transporté les livres d'Ombre Blanche chez soi, et on arrive à l'âge où on ne sait plus où les mettre,
voilà.
ni où se mettre. Mais voilà, c'est tous ces sens de la librairie. Voilà. Il y a eu la liberté de cette écriture de Montaigne, on la lit, moi qui aime la note de Carnet, on pourrait l'écrire, enfin, c'est un miracle si on écrit comme ça, mais ça reste absolument comme si je feuillette, je regarde, je change de livre, c'est le paradis.
Oui, j'imagine mal un monde sans livres, et petite digression, quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'étais aux Éclaireurs de France, et mon chef de patrouille, qui est devenu professeur universitaire d'ailleurs, me disait, parce que nous avions l'habitude d'être reçus ensuite chez les gens pour passer la nuit, etc. À l'époque, ça ne prêtait pas à problème, ce genre de difficulté. Il n'y avait pas de difficulté. Et alors il disait, on repère les gens à leur librairie.
Oui.
C'est-à-dire à leur bibliothèque.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ce mot-là.
Voilà. Et ça m'est resté. Et ça m'est resté. Et je ne peux aller nulle part sans, si je suis chez quelqu'un, immédiatement, mon regard va sur les livres qu'il a. Les livres qu'il affiche, etc.
Les endroits où il n'y a pas de livres.
Voilà.
Les
endroits
où il n'y a pas
de
livres,
c'est un endroit...
Ça nous étrange.
Oui, mais qui m'angoisse. Ça va jusque-là, quoi.
Ça va, je préfère que les livres m'envahissent, ce qu'ils font, être un endroit où il n'y a pas de livres.
Voilà, il y a un malaise, il y a un malaise. C'est comme dans une salle d'attente, si j'oublie mon livre, il y a une panique.
C'est un paysage, même, j'ai passé des périodes très difficiles où je n'arrive pas du tout à lire, mais au moins, les livres sont là comme objet. Comme les gens regardent leur jardin, des arbres, j'ai une couverture des livres le matin. Même quand il y a un moment difficile où tu ne peux pas lire, c'est toujours très compliqué.
Alors, drôle de couple quand même, Yves Charnet et... Christian Taurel.
Qu'est-ce que disent les autres, ça. Ils n'avaient pas ensemble, alors, ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils font?
Christian Taurel, c'est le capitaine Nemo. Mmh. La librairie, c'est le Nautilus. Mmh. Ton chez-soi, ton appartement, c'est la péniche.
En vrac. en vrac.
Voilà. Et vous êtes unis, évidemment, il y a bien sûr les livres, etc., la culture, mais vous êtes unis aussi par les films. Les films... alors, les chansons populaires, moins celui-là.
Oui, lui, c'est un fou de cinéma, Christian.
Oui,
moi, j'étais cinéphile pendant une période, il y a des siècles que j'y vais plus, j'étais très cinéphile, c'était une passion absolument folle de ma mère, tout le temps.
Oui.
On regardait les films à la télévision, et on allait dans les deux salles, il y avait une petite, grâce à la maison de culture, il y avait une salle d'arrêt-essai, donc j'ai vu des choses insensées à 7-8 ans, qu'elles ne comprenaient rien, mais qui te forment l'imaginaire, et puis j'ai suivi avec elle, des années 70, etc., tout ce qui se fait, notamment en cinéma français. En fait, c'est une culture totalement encyclopédique. Moi, j'ai ma période, du coup.
Alors, je vais
donc, c'est ma période. D'où la question de l'antiche du samouraï dans ce film, oui, dans ce livre.
De long. Oui,
voilà.
Oui.
Puis avec des hommes pas très déconstruits, mais de long, je sais, c'est mal.
Alors, l'amitié est vécue comme quelque chose contre la tyrannie aussi. Il y a là,
sa définition dans le couple Montaigne-Laboétie, c'est la définition.
Oui. Oui.
Montaigne, d'ailleurs, qui est beaucoup plus, Christian, beaucoup plus modéré, beaucoup plus, et quand même tombe passionnément amoureux, amicalement de l'inventeur du discours de la servitude volontaire, quoi, de l'être le plus libre qu'il y ait eu. Alors, ce sont les premiers mots du livre, oui. On peut les relire.
Oui.
C'est cela, enfin, que le tyran n'est jamais aimé, hein.
Oui.
C'est contre la tyrannie et contre toute servissement.
Oui, toute servitude.
Oui.
Voilà. Alors je vais te demander, si tu veux bien, de nous lire la page 33,
d'accord,
où tu parles, et d'abord tu dis que rien ne rassasie les sans-pères, donc...
Allons-y, voilà. La liste des maîtres.
Voilà, et la liste des maîtres, ceux qui ont compté, qui ont donné le sentiment d'exister.
Je lis ça. Donc, je lis juste deux lignes de la page 32 avant pour qu'on voit le ton. Nous sommes amis, sans l'être devenu, il n'y a rien d'ébouriffant comme les coups de foudre. La liste des maîtres. J'arrivais à Toulouse, l'été 1996. Je jouais le rôle du jeune agrégé normalien débarquant de Paris, deux ou trois livres au compteur. Le premier avait fait son petit effet, Prose du Fils, 1993. Patrick Kechichian avait mis ce truc à la une du monde des livres. Tout ça passe très vite, hein, mais je rappelle ce qu'était Patrick Péchichan à l'époque, hein, qui vient de nous quitter, hélas. Mais c'est, je suis très frappé à quelle vitesse les champs littéraires se périment, ça me fascine. Patrick Péchichan a mis ce truc à la une du Monde des Livres. Une mémorable invitation de Alain Weinstein pour du jour au lendemain sur France Culture. On pouvait presque y croire, la voix nouvelle d'un prosateur singulier, baliverne d'une notoriété naissante. J'arrivais avec Agathe, Augustin et leur mère. Je portais encore des cravates, les couleurs outrées. Les bâtards restent illégitimes, surtout à leurs propres yeux. Il faut dire qu'ils n'ont rien en propre, ni leurs yeux, ni leur nom. Je sortirai de ce décor comme de la rue d'Ulm, sans y être jamais vraiment rentré. Rien ne rassasie les sans-pères, jamais assez de leur trop. Quelques rares êtres m'auront pourtant donné, dans l'intermède, un sentiment d'exister des hommes, la plupart du temps. Christian Torel est l'un d'eux, Claude Nougaro, Jacques Derrida, Michel Deguy, Jean Delabroix, Denis Tillinac, Pierre Bergougnoux, Serge Lama. J'aime les codes postaux sur les adresses de la chance. Ce furent le plus souvent des maîtres ou des enchanteurs. Je m'arrête là, ouais. Ça.
Bon, là, on voit déjà le panel quand même de ces
les grandes rencontres. Dire, oui.
Les grandes rencontres.
C'était fascinant. Oui. Après, il y avait un peu, ça s'appelait Rencontre avec des hommes remarquables. Oui. Et je pense que j'ai pensé que c'est ça le programme de la vie. Alors, on a. Quand on vieillit, on a le loisir de méditer sur ses échecs. Je me dis que cette ligne-là, je ne l'ai pas trop ratée. la rencontre avec des hommes et des femmes remarquables.
Encore faut-il réussir cette rencontre.
Ah, c'est les rencontres qui nous réussissent. On ne peut rien forcer dans la vie. C'est les rencontres savent pourquoi elles se passent. C'est les rencontres qui savent ce qu'on fait dans la rencontre. Alors, ce sont d'ailleurs, pour prendre un mot qui était cher à Jacques Derrida, ce sont des bénédictions à chaque fois. C'est comme si l'autre rencontre vous bénissait. Voilà. Bénis-moi, comme il dit à l'ange. C'est des adresses au Père. Reconnais-moi. Donne-moi au moins la bénédiction. À défaut de la reconnaissance.
Oui, c'est la reconnaissance. Et oui, il y a aussi ça. Fringale inextinguible.
Pas fin comme ça, si quelqu'un au début t'a dit ouais. Bienvenue, oui. Fiston.
Oui.
Apparemment, c'était pas le, c'était pas le genre de la maison.
Alors. Il y a une
cette phrase de Nougaro quand il dit cette chanson magnifique, on t'attendait fiston, voilà, oui. Quand on t'attend pas, t'en cherches des pères, puis des amis, puis des frères, puis des sœurs.
On va lire peut-être un extrait de la page 35 où tu parles d'une tenace inaptitude au bonheur.
Où est-ce que c'est ça?
Page 35.
Ah oui, voilà. Le début, alors, tout pour être heureux. Je venais donc fonder les enseignements de culture générale à Super-Héros, une des plus prestigieuses grandes écoles d'ingénieurs en province. Le nom de Thomas Pesquet n'était pas encore devenu celui d'une marque, ni la quintessence du genre idéal. Ce héros de notre époque glaçante répare, ça se passe au moment même où j'écrivais ce livre, pour la seconde fois des bricoles au-dessus de nos têtes, dans un grand garage à satellites et autres bidules en orbite qui est désormais la banlieue de notre planète. Personne ne savait à quoi pouvait bien ressembler un métier aussi improbable, surtout pas moi. C'est-à-dire agriculture en école d'ingénieur. Je paraissais avoir enfin terrassé les dragons d'une enfance défenestrée, tout pour être heureux. Je la cachais comme je pouvais, ma tenace inaptitude au bonheur, et me lançais fiévreusement dans l'aventure, évangéliser des jeunes gens au crâne fracassé par 2 ans de bourrage technique et scientifique. Cette mission passait bien sûr par la bibliothèque, par la librairie. Je déjeunais avec le libraire de Airbus Valley, le patron d'Ombre Blanche. Ce fut par un jour d'octobre 96.
Et il y a dans cette rencontre avec Christian Torel, donc dans ce repas, il te dit, on m'avait dit que vous étiez de droite.
Table ronde, Tillinac.
Et alors bon là,
l'éditeur l'était.
Parce qu'il y avait Denis.
Oui, parce que c'était la table ronde Tillinac, l'éditeur l'était, la réputation était.
Voilà. Encore que.
Si ma mère avait entendu cette phrase, alors.
N'est-ce pas? Il y a dans cette
façon... Il y a plusieurs portraits aussi de cet anarchiste de droite qui était Tillinac.
Voilà,
c'est peut-être que j'adorais quelles qu'aient été nos différences. C'est quelqu'un que j'ai adoré. Et avec le temps, le manquer, parce que vous savez, on ne remplace pas les morts au sens où la manière dont ils habitaient l'espace, c'est ça qui ne se remplace pas. Oui. Et des fois, je reprendrais bien la bagnole en écoutant des cassettes d'Elvis, en mangeant dans les auberges de campagne, en écoutant Denis raconter des trucs, même quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Oui. C'était bien.
Mais il y a cet humour quand même permanent, par exemple, qui se traduit aussi dans l'écriture. La ville rose devient la ville rosse.
Parfois,
oui. Plein de jeux de mots comme ça. Le,
encore, oui, ça joue quand même, faut que ça joue.
Encore libre, avec encore le corps, c'est O-R-P-S. Hein. Voilà. C'est une écriture quand même qui est...
Oui, quand on peut, ça joue. Voilà, voilà, ça joue jusqu'à ce que...
Alors, la liberté. Page 42, il y a peut-être quelque chose à lire là, sur la liberté et la cavale.
Oui, alors je vous lis la page 42, qui est une grande page blanche avec simplement deux lignes. Voilà. Cette société déteste qu'on lui préfère la liberté, chacun sa cavale.
Voilà.
C'est dit. C'est à l'époque où je ne veux pas prendre un produit qu'on est obligé de prendre si on veut encore prendre des trains, aller au restaurant, voir ses amis. Nous avons connu un moment vertigineux. Ça, je ne vais pas y revenir parce que tout le monde a oublié, plus personne ne peut se souvenir de ce qu'il a fait, tout le monde a quand même un peu honte de cette signe de détestation à soi-même pour sortir sur son trottoir. Mais enfin, rappelez-vous.
Oui.
Rappelez-vous. Alors, Christian est un grand homme de la loi, donc il avait toutes ses doses. Et son ami samouraï, voilà. Y compris, donc il m'arrivait de rappeler au libraire, notamment. Une phrase déguisée de Pascal Quignard, oui, je rappelle, oui, que mais c'est, voilà, toute société déteste qu'on lui préfère la liberté. Y compris de se tromper, même si je ne pense pas du tout m'être trompé, mais ça c'est un tropisme personnel.
Alors ceci fait partie aussi de la partie...
Mais donc cette amitié a surmonté ça, et je rappelle, oui. Sinon, c'était quand même la guerre civile à cette période, les amitiés disparaissaient, parce que on avait quand même remplacé Dreyfus par Pfizer, c'est quand même un peu moins glorieux, je rappelle, comme lutte, et ils en ont parlé. Eh bien, nous avons... cette amitié, elle résiste à ça comme elle a résisté. C'est ça une amitié, elle résiste à tout ce qui fait qu'elle ne devrait pas avoir lieu. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Par le fait.
Et cela m'amène à aussi cette irremplaçable particularité de chacun.
C'est-à-dire reconnaître
à chacun une particularité qui est unique.
Une habitation du monde.
Ça, je l'ai compris. Absolument irremplaçable.
Je l'ai compris au premier grand deuil qui m'a frappé, il y a longtemps maintenant, hélas, beaucoup d'autres depuis. Mais, alors, tout le monde a perdu Claude Nougaro, mais quand j'ai perdu Nougaro, dans la détresse, parce que c'était évidemment, comme c'était une amitié, j'avais 20 ans, c'était vraiment un rocher pour moi. C'était, ça m'a aidé à me construire. Enfin, c'était immense dans une vie. Mais, quand je m'étais évidemment habitué à cette merveille, que plus jamais personne bondirait comme ça dans la maison, ouvrirait la porte comme ça, chanterait, ferait tous les machins que faisait Claude, y compris quand il en faisait trop, etc. Ça s'est perdu, c'est irremplaçable, c'est perdu à tout jamais. Et c'est mon premier valeur. Donc quand j'ai vu passer cette boîte là, à Saint-Sernin, d'abord un type qui était si vivant, je me demandais comment il tenait là-dedans, lui qui avait dansé tellement, et puis plus personne jamais ferait ça. Ferait battre l'espace comme ça. Ça, c'est vraiment le deuil. C'est ce que Jacques Derrida appelle autrement, plus intelligemment, mais à chaque fois unique, la fin du monde, dans le titre qu'il a trouvé pour les nombreux textes d'adieu qu'il a écrit, prononcé. Mais voilà, c'est... Et alors, je vous dis, comme je vous ai dit, vous voyez, Tilly, je vous ai redit, quoi, voilà. Ça,
c'est ce que c'est pas ça, le sens tragique de la vie.
Oui. Oui, oui, oui.
Ce qui fait vraiment la...
Oui, je ne veux pas en rajouter, parce que je finis par le savoir qu'elle est tragique, mais je m'en passerai, mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Je relis beaucoup Pascal, donc ça calme.
Pourquoi dire alors que la vie ne m'apprend rien?
D'abord c'est beau, c'est une belle chanson. Et puis oui, je ne sais pas, mais ça fait pas ça, c'est des démarrages de chansons magnifiques, la vie ne m'apprend rien.
Mais que tu reprends à ton
compte.
Oui, bien sûr, la vie ne m'apprend rien.
Mais vous savez, parce que c'est mon amour des chanteurs, les chanteurs français, mais et ça c'est des débuts magnifiques, la vie ne m'apprend rien, c'est des magnifiques, c'est des débuts populaires. Dieu sait que nous adorons, il entra, lui d'un nouveau, tous les incipits de la littérature, mais ils sont quand même réservés à ceux qui ont lu des livres. Tandis que ça, c'est encore plus vaste et ça te touche à une région immédiate, dans les soubassements du cœur. La vie ne m'apprend rien, ça démarre. Oui. Et donc c'est des incipits d'émotions pour beaucoup. Et vous voyez, vous me le dites, ça donne un titre comme cela, vous avez dit, et ainsi de suite. Très beau titre, je cherche des titres. Et ainsi de suite. Très beau titre, et ainsi de suite.
Alors, Denis Tignac apprend à lire Mauriac et
Nignac. Ah oui, il apprend tout ce que ma mère m'avait dit, qui était très mal. Voilà, oui. J'avais déjà cessé de croire ce que disait ma mère, parce que j'ai cru tout ce,
mais y avait une...
tout ce qu'elle disait, donc j'ai pas lu Proust pendant 1000 ans, parce que c'était interdit, parce que c'était méchant, il était de droite, il avait une bonne... Il ne fallait pas lire Proust, moi, comme je croyais tout ce que disait ma mère, je ne lisais pas Proust. Puis évidemment, un jour, c'est arrivé. Alors, c'était dur, parce que maman s'était trompée lourdement dans la question. Alors donc, Denis, c'était... Alors, je dis toujours que ça a commencé quand j'ai osé dire... Que... Enfin, quand j'ai osé dire à ma mère que j'aimais... Enfin, osé dire que j'ai assumé d'aimer des chansons de Michel Sardou. Pour ma mère, c'était... Il était beaucoup plus démoniaque que pour Juliette Armanet, on peut pas se rendre compte. Vous croyez que les Allemands étaient dans la pièce quand je passais la Vallée d'Amour.
C'est Denis Tillia qui est... Qui
donc Denis, c'est-à-dire, il m'a fait découvrir tout ce que, les choses qu'il ne fallait pas lire à la maison, Simenon, Blondin, les Hussards, voilà. Oui.
Et qui dit, dans ta vie, il y a trop de textes et pas assez de sexe.
Oh, oui, oui, et qu'il y avait trop de choses apprises à Normal Sud, et que j'étais trop loin de mon...
De ta mère.
Oui, 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 et que c'est ce qui faisait que je n'arrivais pas avec pour lui. Oui. Ce qu'il a toujours regretté, c'est que je n'écrive pas de roman avec tout ça. Oui. Mais moi, ça, dans un roman, disait-il, puis je m'occupe du reste.
Voilà, le concours est assuré.
Voilà, il disait, tu nous gâches nos concours. Je suis obligé de vendre des livres, d'autres livres pour payer les tiens, ou ceux de Pirotte, ou ça, désolé. Moi, j'adorais ça. Si je me comparais à Pirotte, j'étais content.
Et en même temps, pour moi, ce qui est important, c'est justement que tu sois resté dans ce...
Ah oui, voilà. Je ne peux pas faire autre chose.
Dans ce style, c'est-à-dire dans ce que tu es, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quand même... Ouais. Je me permets de rappeler aux gens qui voudraient tenter l'aventure que c'est difficile. Trouver l'endroit des gens qui vont vous comprendre et vous soutenir, puis qui vont... en marché, c'est quand même de plus en plus difficile, puis dans l'ampleur du marché, de la main de fer, vraiment, du marché. Les eaux glacées du calcul égoïste et le marché. Alors, faire un truc à part, je pense que j'ai fini par faire reconnaître que c'est un truc à part. Ce qui fait déjà pas mal.
Oui, oui.
C'est déjà pas mal.
Pas mais c'est essentiel.
Pas mal,
c'est...
Et puis,
c'est pas,
je...
Non, je... C'est
déjà mal d'avoir réussi à faire passer cette notion de la singularité
de
ce que je
fais. C'est le plus important.
Peut-être.
C'est le plus important parce que ça change tout à fait le regard sur l'écriture. Alors j'aimerais bien.
Il y a des gens comme toi qui le lisent comme ça depuis le début, c'est bien aussi.
Oui, mais j'espère qu'il y en a plus que.
Oui, non, j'ai aussi des gens. Voilà.
Voilà,
ouais. Enfin, bon, ça va pas de soi. Parce
que... Alors, tu dis aussi que tout est affaire de décor. Bon, on a bien compris évidemment d'où ça vient. Hein.
L'indicatif de l'émission. Alors.
Et l'existence hasardeuse. Mais est-ce que toute existence n'est pas aussi hasardeuse?
Si, sur les chemins. Les chaos, le détour, oui. La poussière.
Et puis tu as échappé au radotage névrotique du roman.
Oui, c'est inutilement méchant, mais de temps en temps, il faut, pour autre chose, oui, mais voilà.
Alors, je voudrais te demander de bien vouloir...
Ah, c'est ce que j'ai tendance à apparaître quand j'en parle, là. Voilà. Pourquoi il y a d'autres écritures, voilà. Pourquoi il y a d'autres écritures, pourquoi il y a d'autres espaces, ils sont quand même si peu nombreux. C'est pas mal d'y réfléchir un peu, puisqu'on les voit si peu quand ils se font écraser, quand même. Des textes comme ça, ils se font écraser tout de suite sur l'autoroute de la rentrée littéraire.
Le marché, disons.
Il y a autre chose.
J'aimerais entendre lire, s'il te plaît, la page 67, Les Poètes.
Alors, 67, Les Poètes. Voilà. Alors, pareil, deux lignes sur une page blanche. Les poètes sont des personnes déplacées, tous les anarchistes. Ces grandes gueules ne sont jamais à leur place, nulle part. Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça, avec ma petite invention de anarchiste. Je suis content. Tous les poètes sont des personnes déplacées, tous les anarchistes.
Donc je conclue que tu es une personne déplacée.
Oui, et comme je suis un anarchiste. Un intellectuel. Ces jeux de mots, quand tu parlais de ces jeux de mots, avec une seule syllabe, par exemple, qui change, l'être, c'est de la jubilation d'Ougaro. Ça faisait partie de ma jubilation à le connaître, mais lui était un drogué de ça. Hein. Il aurait aimé un artiste, par exemple. Oui. Je suis un anarchiste. Oui.
Alors, il y a aussi, disons, des humiliations dans la vie.
Il y en a.
Et dans, voilà, je crois que toute vie est faite aussi de d'eau et de bas, donc de
puis les autres, pour l'humiliation, pour l'humiliation, les autres sont très forts pour ça.
Voilà. Et les autres s'acharnent.
Oui, il y en a toujours.
Voilà, c'est un sport que qu'aiment beaucoup de nos. Ouais.
Ça, et la délation en France, il y a
Et alors,
il y a des candidats.
Le libraire Christian Torel va écrire un livre qui aura un certain succès, où il parle de sa librairie. Et dans ce livre, il parle de tous les gens qui ont compté, ses amis, ce que tu as fait toi.
C'est pas une humiliation, en tout cas, voilà. Mais c'est une. C'était une terrible mission. Une terrible mission. Oui. Ah, je ne l'avais pas cru. La première chose que j'ai cherché dans le livre, c'est où j'étais. Alors du coup, je l'ai vraiment lu celui-là, parce que j'ai vérifié que je n'étais pas du tout. C'était, voilà, c'est l'ironie de ce livre. Donc, du coup, j'en ai fait un où il n'y a que lui. Hein, Christian? Alors. Non, parce que je dis, on peut se douter quand même. On a invité la Terre entière. Oui, pendant 10 ans, on a invité tous les poètes de la Terre. Tous les poètes de la Terre, on les invitait ensemble. Ils venaient à Super-Héros et après ils venaient à l'école. Mais je veux dire, Jacques Dupin, Michel de Guy, Bernard Noël, Gilles Joannard, Jean-Claude Pirotte, qu'est-ce que je vous dis, Pierrotin Grenier, enfin bref, tout quand même. On a collaboré, on a. Voilà. Enfin, j'étais. Oui, tout va. On s'est rencontrés dans le livre. On a déjeuné, on a parlé. Puis, je le dis aussi avec l'ironie, sur ce besoin cinglé de reconnaissance. Vous voyez, j'ai une pierre dans mon jardin aussi. C'est pas si grave, Yves, mais si, quand même. Alors, il n'y a rien eu, Christ. Je ne sais pas, sur le papier, il n'y a rien eu. Je suis resté aussi bête que ça. Là, c'est marqué qu'il y a eu. Oui. Bien eu l'amitié entre Christian Torel et Yves Charnay.
Alors, on va passer sur le...
Mais ce n'est pas une humiliation, il y a des humiliations.
Oui, j'ai
Oui, il y a des scènes d'humiliation dans mes livres. Ça. Oui. Un bâtard dans les années 70, il sait ce que c'est que l'humiliation.
Oui. Oui, et je crois que c'est une époque aussi qui la pratique d'une façon, on pourrait dire, industrielle.
L'institutrice qui m'oblige au CM1 ou au CM2 à faire quand même à faire quand même le cadeau pour la fête des pères, à le graver sur pyrogravure, ça, oui. Que tu ne veux pas le faire parce que tu n'en as pas, qu'elle dit tu le feras comme les autres, ça, c'est. Ça, ça ne s'oublie jamais.
C'est devenu un sport national.
Ça, ça ne s'oublie jamais.
Avec tous les faits divers que l'on voit, bon. Ma femme me parlait d'un enfant de 9 ans qui s'est pendu aujourd'hui.
Dans cette société-là, dans un moment, c'est aussi déréglé que le climat. Là, quand même, je dirais, il arrive plein de choses déréglées en ce moment, mais il y a un dérèglement général qui est vraiment pas rimbaldien, et qui nous fait tous donne le vertige, quand même, il faut bien le dire.
Je voudrais peut-être qu'on va parler de l'apprentissage, de apprendre, cette soif d'apprendre, quand même, qui est très importante. Page 88.
Page 88. Je recevais ça à 6% pour les alchimies, qui est entièrement sur la folie de la connaissance. Donc j'ai dit quelque chose là-dessus, moi. Quelle page tu dis?
88.
Ah oui, je suis en 79, non, pas du tout. 88. Chacun son cursus. Je sais pas, ça, suite de quoi ça se fait. Ah oui, lui, parce que lui arrête ses études
à
tellement.
Voilà. À propos de Christian Torel.
Alors là, vous, comme vous dites, c'est le moment où moi je me vouvoie comme Apollinaire se tutoie. Voilà. C'est pour nos auditeurs. Vous en avez pris, donc c'est moi, le narrateur. Vous en avez pris pour 15 ans ferme, du bac à Nevers, juin 1981, à la soutenance de thèse à Lille, novembre 1995, en passant par la rue d'Ulm et la Grègue. Votre mère a toujours pensé que son fils aurait pu faire un ultime effort pour le CNRS. J'y pensais parce qu'ils ont mis le prix Nobel à une femme française en physique, formidable et tout. Et ta mère aurait dit, comme tu aurais pu faire un effort, Yves, tu vois. Vos insomnies en auront compté pour s'endormir, des grosses têtes, des médaillés de l'excellence, des diplômés jusqu'aux chiottes. Vous n'avez connu personne ou presque dévoré d'un tel désir de savoir. Ah oui, ça c'est le désir, ça, encyclopédique de Christian. Personne comme l'homme qui vous raconte son roman d'inéducation, un soir de décembre 2012. Ça restera chez votre motif taciturne comme une vocation. Apprendre. Cette compulsion, parce qu'il connaît tout sur l'ensemble des rayons. Ça fascine souvent mon épouse, qui est prof de philo, quand on parlait avec lui, alors qu'il connaissait des domaines que je ne sais pas du tout. Et il en parlait pareil que du reste, que de la littérature que je connaissais. Et tu fais science, il te dit aussi. Oui. C'est une encyclopédie. Personne comme l'homme qui vous raconte son roman d'inéducation un soir de décembre 2012, pardon. Cette vocation, apprendre, cette compulsive passion continue de le dévorer aujourd'hui, cette anomalie sauvage. C'est une odyssée sans retour, la lecture, chacun s'embarque avec les moyens du bord pour s'aventurer sur ces prodigieuses vagues de signes. On dirige sa navigation hasardeuse en suivant les voies du vent. Rien de fabuleux comme cette errance sans fin. Il est impossible de résister au chant des sirènes, à leurs frauduleuses promesses d'un chant encore à venir. Ce sont à la fin des hommes à la mer. Les lecteurs, ils ont plongé, une fois pour toutes. Ce n'est plus pour eux les rivages, les visages. Ils sont seuls, tout seuls. Vous ne savez jamais quel virage elle va prendre, votre écriture bifurquante. C'est pour ça que ça fait jamais plus de 3 pages que je change d'idée, de style ou de balle.
Alors, on va continuer justement sur l'acte de lire. Donc, c'est les pages 139-140. Ça, c'est important. L'acte de lire.
C'est où, toute la page 139?
Oui.
Fétiche, le rêveur garélien, êtes sûr que c'est celle-là? Le rêveur carrière des 70 a commencé avec les 80 carrés d'héritage Archie, oui. C'est Jean-Paul Archie, le premier créateur des Vraies Rombes Blanches. Ah oui, mais non, je vois où c'est là-bas de la page 139-140. C'est bon, j'y arrive.
Je savais depuis longtemps comment l'esprit peut traverser les murailles.
C'est ça, vous voulez que je parte de là? Parfait. Voilà. Chers auditeurs, vous voyez que c'est du direct. Je savais depuis longtemps comment l'esprit peut traverser les murailles. Bien avant pareil enfermement de notre troupeau sous l'emprise des diafois russes de plateau. Je rappelle que c'est l'époque bénie, de la science des virus respiratoires, comme disent mes amis. Je ne connais pas d'exercice plus radicalement étranger à cette domestication sociale que l'acte de lire. C'est au fond la grande affaire d'une vie, la fabrication d'une bibliothèque. C'est là mon siège, selon la formule inaugurale de Montaigne. J'ai besoin de savoir les livres autour de moi. Rien de silencieux comme la présence de ces anges gardiens. Ils me protègent et veillent sur mon âme. Fétiche d'une obscure croyance. Je peux rester des semaines sans en ouvrir un, des mois. Je suis, et plus souvent qu'à mon tour, prisonnier d'une oisiveté ennuyeuse, atroce désœuvrement parfois si proche de la folie. Mais même quand on n'a plus la force de déchiffrer leur énigme, les livres sont là. Fabuleuse disponibilité de leur attente. Ils constituent, depuis toujours déjà, mon jardin secret, mon lac intérieur. Leur simple présence m'apaise, le matin comme le soir. Ils sont les fidèles sentinelles de mon royaume imaginaire, les sobres coffrets de mes trésors chimériques. Montaigne n'est peut-être rien tant que sa librairie qui est des plus belles entre les librairies de village. Formidable, une des plus belles entre les librairies de village, moi non plus. C'est là que j'aimerais mourir, un jour ou l'autre. Il me semble que le dernier passage serait moins pénible parmi mes amis de papier. Rien ne m'aura tant plu depuis l'enfance que de cacher mes songes dans ce refuge favori, le giron des doctes vierges, les livres au ventre entrouvert.
Voilà, je trouve ça magnifique.
Citation de Montaigne, vrai morceau de Montaigne dedans.
C'est magnifique. Là, on voit aussi tout le côté quand même poétique de cette écriture. Et comme malheureusement, il ne nous reste que quelques 3 minutes, me dit-on, nous pourrions finir par la page 166. On parle de Jermel Nescache.
Oui.
On peut dire un petit extrait parce que.
Absolument. Saluons Jermel.
En 1966. Alors, c'est un
et Claudine et Tatiana, le taratrio de Tarabuscan.
Ce qui est assez rare.
Je suis dans son jardin et on finit le livre comme ça. Déjà, l'homme va parler aux plantes avec son arrosoir vert. C'est une maison-jardin merveilleuse à Saint-Benoît-du-Sault. Avec petit potager en terrasse, il y a des pierres, du papier et de l'herbe. C'est une maison imprimerie, avec ses écrans, ses presses, tout un savoir-faire d'artisan. L'homme est un dieu barbu, comme dans les dessins mythologiques de Matisse et Picasso. C'est un faune, plus qu'un fauve, un sphinx joueur de syrinx. Sa bonté de roi débonnaire brille jusque dans ses yeux chevelus, et la pointe d'accent pour épicer les confidences à contre-pudeur. Il a mis son sourire méditerranéen jusque dans ce recoin reculé entre Creuse et Indre, l'autre idée du bonheur à Saint-Benoît-du-Sault. C'est un seigneur généreux, un berbère universel, il a le cœur sur la main et l'hospitalité comme boussole. Il a beaucoup marché pour arriver jusqu'ici, il a connu la bourlingue et l'exil, nous faire du décor et quelques saisons à l'envers. Voilà, ça continue sur les pages, mais
alors, je vais finir.
Vos lecteurs peuvent acquérir cet ouvrage.
Tu le veux bien, puisque oui. Malheureusement, nous sommes rattrapés par l'heure. Je voudrais te poser une question. Il y a Joël Vernier, qui est un poète, qui est, bon, qui est un marcheur aussi, et je dirais un poète de l'ombre, mais un grand poète de l'ombre, qui écrit « Je n'écris pas pour écrire, mais pour vivre. » Oui, vivre à plein poumon, m'asphyxier de cette vie. J'écris pour vivre mieux, pas tout seul, dans mon coin, terré comme une bête traquée, mais à l'unisson, même sur les autres, je ne suis pas obligé de les croiser constamment. Voilà. C'est-à-dire que, il dit, je suis un solitaire.
Survivre dans mon coin, voilà. Survivre dans mon coin, mais, ça me va voilà, tout à fait.
Survivre dans mon coin, ce qui ne m'empêche pas, bien entendu, mais... d'être totalement solidaire avec les autres gens de l'écriture, c'est-à-dire avec les autres poètes. Est-ce que c'est aussi...
Oui, quasiment...
Ce serait une posture d'Yves Charnay, ça.
Oui, oui, survivre dans mon coin en écrivant. De toute façon, je crois que c'est... En plus, quand on commence à faire ça, la vie vous rattrape et elle vous oblige, elle vous enlève des autres lieux et des autres endroits. Pour des tas de raisons, en ce moment, je pense beaucoup à ça. Et donc, je dis beaucoup, l'autofiction, c'est un genre maudit parce qu'il répond à une malédiction puis il finit par produire des malédictions. Mais bon, qu'importe.
Ça, c'est terrible, ce que tu as dit.
Oui, parce que je pense que c'est vrai. Enfin, je le vis en ce moment. Mais je veux dire, la survie dans le coin, oui, y compris que de ne pas être écrasé. Quoi qu'il en soit, que sa particularité ne soit pas écrasée par la norme qui en ce moment est quand même épouvantable.
Voilà,
l'anonisation de ce moment de l'histoire.
Oui, oui.
Devenir Anouna du monde, c'est quand même épouvantable. Fellini est mort en nous signalant là, que c'était la je sais plus quoi là, comment il s'appelait, Berlusconi, mais nous c'est Anouna, mais enfin c'est des crépuscules quand même là, ça. C'est la musique qu'on joue sur le Titanic au moment où il sombre n'est pas n'est pas digne. Voilà, donc il faut en faire une dans son coin. Voilà.
Merci beaucoup, Yves Charnay.
Merci, Christian. C'est
alors, c'est un livre qui a été présenté au Marathon des Mondes. On n'en a pas parlé, mais oui. Il y a eu un vrai succès. Et c'est un moment vraiment, pour moi, c'est un moment vraiment délicieux, inoubliable.
Merci.
Le libraire de Gambetta, d'Yves Charnay, aux éditions Tarabuste. Et le livre vous coûtera 18 euros à lire sans attendre. Merci beaucoup, Yves, et à très bientôt.
À bientôt.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. À 10h.